Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Galéjade, émission culturelle et culturiste, toujours présentée par nous, John et Geoffrey. Donc c'est comme à chaque fois, un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette 11e émission déjà. Et on espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Donc au programme de cette émission, nous accueillons Samuel Chevaux. Bonjour Samuel.
Jonathan.
Donc Samuel Chevaux, le patron, le boss de la librairie Bulle. Donc la librairie Bulle créée en 1983.
Attends, on n'a pas entendu le bonsoir de Samuel.
Eh bien, bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices.
Bonsoir Samuel Chevaux. Donc,
je vous laisse deviner pourquoi.
Ah bah oui, parce que Geoffrey a encore fait une petite blague sur Radio Alpa.
Tu sais que les gens, à force de nous écouter, ils doivent penser que c'est une vanne que je fais à chaque fois, alors que non, j'oublie tout le temps un truc, je fais jamais exprès.
Donc sachez que Galéjade, c'est l'émission des deux stagiaires de Radio Alpa. Hein. Donc s'il y a plein d'erreurs ce soir, c'est totalement normal.
Ah, je viens à une émission dirigée par des stagiaires.
Exactement.
On m'avait pas vendu comme cela l'émission.
Et pourtant c'est le cas.
D'accord.
Bah, si on la vend correctement, les gens viennent pas. Donc,
effectivement, je dois dire à nos auditeurs et auditrices qu'il a fallu que je coure chercher une clé afin d'ouvrir les bureaux de la radio.
Je coupe ton micro.
Sinon, il n'y avait point d'émission, déjà.
Ça se passe tout le temps comme ça.
C'est clair.
Donc, Samuel Chevaux, le patron, the king of king, lord of war, de la librairie Bulle. Donc voilà, librairie Bulle, 39 ans d'existence et une institution au Mans maintenant. Et donc on va parler avec lui de notre passion commune, la bande dessinée.
Qu'est-ce que c'est la librairie Bulle?
Et qu'est-ce que c'est la bande dessinée aussi?
T'inquiète donc, pas Sam, on va en parler juste après.
Donc plein de questions philosophiques tout le long de la soirée. Et donc voilà, on va parler de toi Samuel, de ton parcours, de tes challenges, tes rencontres avec tes auteurs, ta relation avec tes clients qui viennent depuis des années. Et bien sûr, on parlera de la suite. Et donc maintenant, je laisse Geoffrey nous présenter le programme d'aujourd'hui, même si j'en ai déjà fait pas mal. Hein.
Ouais, t'as été hyper complet, mon John. Donc moi, je vais te dire très très peu de choses avant de pouvoir lancer la chanson. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on reçoit un invité, Samuel. On va échanger ensemble, on va faire un petit jeu spécialement conçu pour ta venue Samuel, un jeu sur la bande dessinée. On va également faire nos recommandations culturelles, mais le tout sera entrecoupé, comme à chaque fois, de quelques pépites musicales qu'on voilà. Vous laisse découvrir.
Et donc, pour commencer justement, la petite pépite musicale, c'est pour introduire Samuel Chevaux dans l'émission.
Exact, on revient tout de suite. Et voilà, c'était donc Français de Martin Circus.
Alors, voilà. ça vous connaissez pas, bande de petits schnappants, hein. Le premier opéra rock français, Martin Circus, avec des grands noms de la chanson française et du rock français.
Mais oui, je savais que ça allait te faire plaisir d'écouter
ça.
Et
oui,
parce que pour moi, le premier opéra rock français, c'était Mozart. l'opéra rock.
D'accord.
Ouais, donc on était à deux doigts de se tromper quand même sur le choix musical. Et donc tu peux nous parler un peu de cette musique, Samuel? Pourquoi tu... Bah déjà, tu l'as pas choisi, c'est moi qui te l'ai...
Oui, c'est vrai. Ça me fait particulièrement chaud au cœur, car c'est une musique que j'ai découvert dans les années 70. En plus, c'était un double galette, comme on dit maintenant, où à l'intérieur, il y avait une dizaine de pages dessinée sous forme de bande dessinée et qui racontait l'histoire de la Révolution française à travers évidemment beaucoup d'événements et avec une bande musicale très rock, très proche un petit peu de un peu du début de Ange, un peu peut-être dans cette on va dire un peu famille musicale. Et surtout, je sais pas pourquoi, j'étais complètement omnubilé par cela, les dessins déjà un peu bande dessinée,
ouais.
Et puis cette musique à la fois très rock, mais aussi avec beaucoup d'harmonie, de mélodie, et j'ai fini par connaître par cœur l'intégralité des deux disques. Voilà.
Et donc,
je crois que ça n'a pas eu un succès extraordinaire, et puis voilà, c'est tombé un petit peu dans l'oubli, et aujourd'hui, quelqu'un m'a réoffert le CD, et là, je suis dans un état proche du nirvana.
On peut le dire, là, je crois qu'on vient de relancer les ventes.
Ah bah, totalement, là. Et donc, là, on est dans les années 70, donc la librairie Bulle n'a pas encore ouvert.
Eh non, pointe encore.
Et donc Samuel, en fait, pour ceux qui connaissent pas, encore la librairie Bulle, donc je fais le petit topo. Donc c'est une librairie indépendante spécialisée dans la bande dessinée, donc qui a vu le jour dans le Vieux Mans en 83, dans une toute petite structure. Et donc après 30 ans d'existence, elle a déménagé dans le centre-ville du Mans pour un nouvel établissement beaucoup plus grand. Et avec en plus deux niveaux, donc pour départager la bande dessinée adulte, la jeunesse, le manga. Pour ajouter à ça, il y a eu en 2014 l'ouverture de la boutique éphémère pour accueillir tes auteurs, pour donner de la place. Et en plus, après tout ça, on ne s'arrête pas là, car en 2019, c'est l'ouverture de l'espace BIS, donc un endroit d'exposition-vente, qui est donc anciennement qui était l'école du lac, et qui permettra en fait de mettre en valeur le travail des dessinateurs et des illustrateurs, et où se déroule maintenant toutes tes dédicaces, quoi.
Exactement. C'est bien brossé, c'est bien relaté.
On est peut-être des stagiaires, mais on a travaillé un peu. Hein.
Mais il n'y aurait pas comme un peu un conflit d'intérêts ici, parce que je vous ai déjà vu, vous, à la librairie, Jonathan. Non,
moi, ça me dit rien du tout. Ah, moi, non, Samuel Chauveau, tu vois, non, je pensais
que c'était... Non, tu confonds avec sa sœur.
Ah, d'accord, oui. C'est sans doute comme client que je vous ai vu, petit schnappant.
Mais de toute façon, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi.
Ah, zut.
Et donc, pour nous éclairer un peu tout ça, parce que moi, au final, je ne sais pas comment elle est venue, cette idée de créer cette petite librairie Samuel Chauveau dans le Vieux Mans.
Écoutez, ça n'est pas bien original. Je crois que quand vous êtes étudiant, vous avez passé votre bac, vous dessinez pour des études remarquablement importantes, où vous sentez investi d'une mission pour l'avenir de l'État français. Et là, vous vous dites, après une année de droit,
révolution.
C'était bien justement après les élections d'hier. Et puis, eh bien, première année un peu déjà ratée. Seconde année, le chemin va suivre la première année, c'est-à-dire une catastrophe notable. Et comme je suis déjà très attiré depuis des années par les illustrés, par la bande dessinée, et que dès que j'avais un petit peu d'argent, j'achetais tout ce que je pouvais acheter, avec aussi les métiers d'été où je pouvais mettre de côté un petit pécule et aussitôt j'allais le dépenser. Dans l'achat de bande dessinée. Et un jour, bien quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu te tenterais pas? A priori, là, les études, je pense que tu peux mettre une croix dessus. Et ça a été comme un déclic. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Mais je n'y connaissais strictement rien. Je n'étais vraiment qu'un amateur, un lecteur. Et un lecteur, à l'époque, pour vous dire, les années 80, il ne sort pas plus de 200 nouveautés par an. C'est-à-dire, c'est tellement peu nombreux, c'est tellement pas foisonnant, c'est tellement pas riches au niveau de la création. Par contre, ce sont des grands monstres encore qui sont là pratiquement tous les ans. C'est même si Hergé ne publiait plus de Tintin, c'était des Lucky Luke, c'était tout ce qui a fait l'histoire de la bande dessinée. Ces grands maîtres étaient très présents, sortaient tous les ans pratiquement un titre de leur héros. Mais la création n'était pas non plus foisonnante. Et en fait, j'ai ouvert janvier 83, comme tu l'as signalé, Jonathan, mais pour vous dire à quel point j'étais peu commerçant et que je ne connaissais rien à tout cela, eh bien la librairie était prête, totalement prête, avec le contenu, avec tout ce qu'il fallait pour accueillir les gens dès le mois de novembre, décembre 82. Et là, je me suis dit, j'ai eu une idée remarquablement révolutionnaire, là aussi, qui était de dire, ça ne sert vraiment à rien de démarrer trop rapidement. Eh bien, pourquoi ne pas attendre
après
le début
Noël.
D'année prochaine les fêtes, parce que les fêtes c'est compliqué, il y aura beaucoup de gens, trop de ventes, trop d'argent déjà dans les caisses. Eh bien allons-y, révolutionnons tout ça, révolutionnons le commerce et ouvrons le 3 janvier 83, c'est-à-dire une fois que tout ça a été paré.
Ça c'est l'esprit fin qu'on connaît.
Exactement, autant vous dire qu'il n'y a pas eu grand monde pendant quelques temps quand même.
Tu m'étonnes.
Mais bon, mais c'était aussi, quand vous avez 20 ans, effectivement, pas forcément très dégrossi, vous n'y connaissez pas grand-chose, encore une fois. Et là, il a fallu apprendre sur le terrain. Tout ça se mettait en place. Certes, il n'y avait pas beaucoup de librairies encore en France. Comme j'ai l'habitude de dire, moi, je ne suis pas de la première génération de libraires spécialisés dans la bande dessinée. Il y avait déjà peut-être une dizaine de librairies en France, mais uniquement dans les grandes villes, dans les capitales régionales, à Paris évidemment.
Oui, parce qu'à Paris, au final, il y en avait beaucoup.
Oui, il y en avait quelques-unes, et puis il y avait surtout des librairies, la librairie du Puy, qui était la librairie peut-être l'un des plus grands éditeurs, où de temps en temps, quand on parle de dédicace ou d'animation, eh bien souvent les acheteurs, les lecteurs venaient assister à des rencontres avec Franquin, avec Robat, avec les grands noms de la bande dessinée, mais ça c'était sur Paris quoi. Ouais. Et puis on n'avait pas accès à tout ça, et de toute manière moi je ne connaissais pas ces auteurs. Donc j'ouvre début 83, et pendant quelques années ça a été l'âge d'or des librairies spécialisées. Ça ouvrait tous les mois, il y avait des librairies qui ouvraient un petit peu partout en France. C'est vraiment dans ces années-là que on a vu éclore, d'un petit peu ces nouveaux métiers.
Mais justement, depuis ces années-là, aujourd'hui, en fait, j'imagine que le métier de libraire, il a carrément évolué au fil des ans.
Toi, tu travailles
plus du tout de la même manière que tu travaillais dans les années 80.
Ben évidemment, quand vous attendiez les nouveautés, puisque 200-250 nouveautés par an, vous divisez par le nombre de jours, et vous pouvez constater que ça ne représente pas grand-chose. Eh bien, heureusement, la création a commencé à s'épanouir. De plus en plus d'auteurs, de jeunes auteurs, là aussi, ont voulu travailler dans ce médium ou pour ce médium, ça a commencé à se développer, et c'était effectivement d'abord du bonheur, mais encore une fois, moi je comprenais pas grand chose à tout ça dans un premier temps. Moi j'ouvrais une librairie parce que j'étais amateur, parce que ça me permettait d'économiser aussi 30% la marge que le libraire possède en vendant des livres, des BD. Donc je faisais une économie de 30% par rapport aux années précédentes où j'allais les acheter chez d'autres libraires. Donc déjà c'était bien pour moi, mais je n'avais pas saisi que c'était peut-être un métier. Derrière ces ouvrages, eh bien il y avait des auteurs, il y avait des créateurs. Non, moi j'étais vraiment un petit peu le béné qui était content de découvrir tout cela. Et puis vous grandissez un peu, vous apercevez que ce milieu il est en train d'exploser.
La production
justement, c'était un point qu'on voulait aborder, c'est la production a continué d'exploser au fil des ans. Et donc, toi, ta librairie, tu l'as adaptée aussi au fil des ans. Tu t'es agrandi au fur et à mesure.
Oui, et puis il faut dire aussi que le Vieux Monde n'était absolument pas un axe et un endroit stratégique pour le commerce. Nous n'étions pas dans le centre-ville. Donc, il a fallu se faire connaître. Et encore une fois, que fallait-il faire pour... Moi, je n'avais pas d'études de marketing, pas fait quoi que ce soit. C'était tout à l'inspiration. C'était un petit peu à la sensation. quoi faire pour faire venir les gens à la librairie. Eh bien, c'est là que je crois que j'ai commencé à faire venir des auteurs, à me dire tiens, voilà. Et je sais pas pourquoi tout ça s'est mis en place, mais sans stratégie. C'était simplement un petit peu du coup par coup. Et puis le Vieux Mans était quand même esthétiquement très joli aussi. Donc quand il faisait beau, on pouvait dédicacer dans la rue. Et donc voilà, ça a démarré comme ça aussi pour un petit peu commencer à faire connaître la librairie.
Avant de continuer cette interview, Sam, on va partager un petit morceau avec toi, un morceau que t'as choisi. Donc c'est Benjamin Biolay avec Ton héritage, et on revient juste après.
Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri. Crie mon enfant, si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan, si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps, si tu veux tes amis près de toi tout le temps, si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris les absents, si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand, si tu parles à ton ombre de temps en temps, si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent, si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps, si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang, il va falloir faire avec ou sang. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers, les mystères troublants, si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan, si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang, il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse son plan. Si tu as peur du sommeil et que passe le temps, si tu aimes l'automne vermeil, merveille, où je sens. Si tu as peur de la foule, mais supporte les gens. Si tes idéaux s'écroulent le soir de tes 20 ans, et si tout se déroule jamais comme dans tes plans. Si tu n'es qu'une pierre qui roule, roule mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang, il va falloir faire avec, ou plutôt sans.
Et donc vous êtes toujours sur Radio Alpa avec Gal et Jade, et aujourd'hui nous sommes avec Samuel, donc de la librairie Bulle. Donc voilà Samuel, donc Benjamin Biolay, ton héritage, Mais quel est ton héritage, toi, Samuel Chevaux?
Je vous voyais venir, hein, évidemment. Ah, ben écoutez, hein, au bout de 40 ans, peut-être est-il temps de penser à la passation, l'héritage pour les autres, peut-être, que sais-je encore, je ne sais pas. Au bout de 40 ans, quand même, c'est peut-être ça, moi, ce qui me reste le plus de toutes ces années, de toutes ces décennies, c'est d'avoir grandi aussi comme la création, c'est d'avoir grandi aussi avec tout ce qui s'est passé dans le milieu de la bande dessinée et de ne pas être rassasié. Je le répète assez régulièrement, mais c'est vrai, c'est sincère, j'ai pas de stratégie. Moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir vu un petit peu l'histoire, une certaine partie de l'histoire de pas de la bande dessinée, mais en tout cas de ce milieu aussi,
parce que ce milieu
du commerce de la bande dessinée. Totalement. Mais commerce dans le terme plutôt, moi, qui n'est absolument péjoratif. Commercer, c'est pas mécréant, c'est pas du tout vulgaire, c'est plutôt noble dans le sens aussi de faire découvrir, eh bien, le travail de créateur, car nous ne sommes que des passeurs, car derrière nous ce sont des gens qui bossent toute l'année, des mois sans arrêt. On pense que le milieu de la BD, c'est de faire du petit Mickey, de dessiner dans les marges des cahiers. On a tellement entendu plein de choses comme ça un petit peu idiotes, alors que c'est des choses tellement invraisemblables, que ces gens ont un talent fou et que vous, eh bien, vous êtes là aussi pour un petit peu mettre ça en avant. Et moi, c'est ce qui me passionne toujours, en tout cas.
Oui, parce que la bande dessinée, c'est plus le franco-belge classique avec Tintin, avec Astérix. Maintenant, on est plus dans le roman graphique, dans la BD reportage, parfois dans les essais.
T'as le manga, t'as le comics,
bien sûr,
c'est totalement qui s'est,
c'est
qui
ça
s'est
qui
développé.
C'est ça qui s'est passé aussi durant 40 ans, c'est l'arrivée de plein de familles, de plein d'auteurs qui aujourd'hui sont capables d'aborder n'importe quel thème, n'importe quel sujet, avec des formats complètement différents. Nous sommes sortis beaucoup du 48 pages couleur, comme c'était le cas avant, avec des formats, des paginations, des contenus qui explosent. On peut raconter un récit en plus de 300, 400, 500 pages. On peut intéresser n'importe quel lectorat, qu'il soit féminin, car aussi, moi, j'ai démarré, je peux vous dire, nous ne voyions pas beaucoup de femmes pénétrer, arriver dans la librairie, parce que c'était plutôt pour un milieu masculin, aficionados.
À cette époque-là, les personnages étaient masculins.
Mais oui,
beaucoup
oui.
Masculins.
Et aujourd'hui, tout ça a explosé aussi. Les créatrices sont arrivées encore plus fortes avec quelque chose de différent. De tellement aussi plus, je vais dire frais, c'est peut-être pas le bon terme, mais ça amène aussi
un regard nouveau qui est
là aussi, qui fait partie de cette évolution de ce médium. Et aujourd'hui, regardez, qu'est-ce qui tire aussi un petit peu même toutes les familles du livre, c'est de plus en plus la bande dessinée. Et comme Geoffrey le disait aussi, la BD plutôt classique, eh bien, elle a été je vais pas dire doublé, mais on a vu apparaître, eh bien, de la BD asiatique avec le manga, avec la BD coréenne, de la BD anglo-saxonne avec le comics, pour montrer aussi qu'en France, on est une terre d'accueil et qu'il n'y a pas non plus que la BD franco-belge, car aujourd'hui, dans toutes les librairies, eh bien, vous pouvez découvrir un titre, qu'il soit plutôt classique, manga ou comics. Ça aussi, c'est remarquable.
Totalement. Et moi, on voulait parler de quelque chose avec toi. Justement, c'était l'ouverture de l'espace BIS en 2019. Du coup, un endroit de rencontre, d'exposition, de conférence. Et donc, justement, en fait, qu'est-ce qui t'a apporté ce lieu? Parce que...
D'abord, il y a eu le changement au bout de 30 ans, passer de la vieille ville à un endroit beaucoup plus central. C'était aussi de dire, voilà, ça fait 30 ans que je suis dans ce petit écrin. Là, tout avait explosé. La concurrence aussi avait aussi évolué. Donc, je crois que si nous étions restés là-bas, la librairie n'existerait certainement plus. Donc, il a fallu faire un pas très important et financier. Et eh bien de mettre un petit peu là, de se mettre un peu sur la table en disant voilà, moi je pouvais continuer à vivre dans le Vieux-Mans, je commençais à gagner ma vie vraiment tout à fait honorablement, mais j'avais envie aussi de tout recommencer quelque part et de se mettre un peu en danger en investissant beaucoup d'argent pour dire aussi tiens, investir dans une librairie qui serait un petit peu atypique, c'était aussi ma façon de montrer aux créateurs, aux auteurs, et eh bien qu'on était capable de prendre des risques pour eux aussi, ouais. Pour dire que voilà, vous êtes des vrais, vous êtes des gens incroyables. Cette création est incroyable. Eh bien, prouvons-le aussi auprès du grand public.
Et justement, ça a été, le déménagement de la librairie Bulle dans le centre,
étape, oui.
Dans et le centre-ville n'a pas suffi.
Et puis après, c'est de le dire aussi, comme nous recevons pratiquement maintenant depuis 10 ans un auteur par semaine. Ouais. De façon hebdomadaire, eh bien, c'était de les recevoir dans un endroit qui n'était pas non plus celui de la librairie, car lorsque vous avez un auteur qui reçoit pratiquement 30, 40, 50 personnes qui viennent pour la dédicace, qui viennent pour la rencontre, eh bien, économiquement, ça n'est pas vraiment très, très intéressant dans la librairie. Donc, il fallait décentraliser ces rencontres, et c'est là où la librairie éphémère est apparue à côté, pas très loin. Et puis après, comme c'était trop petit et j'avais un bail qui était un peu bancal, je savais que si je perdais ce lieu, eh bien là, ça mettait en danger toute notre politique, un petit peu d'accueil, un petit peu de rencontre. Et c'est là que, eh bien, le projet en 2018, eh bien, c'est aussi à débuter de réinvestir là aussi un petit peu d'argent, voire beaucoup d'argent, pour ce nouveau lieu qui, comme tu le disais, a ouvert en 2019, mais qui était aussi un pari, parce que de toute manière, c'est comme si c'était une danseuse qui ne rapportait pas beaucoup d'argent, mais quand même qui mettait encore plus en avant la présence d'auteurs, l'image aussi, puisque c'est un lieu qui vit dans le reste de la semaine en dehors des dédicaces et des rencontres, mais dans un endroit quand même esthétiquement qu'on peut considérer plutôt agréable et attractif.
C'est quoi la...
Pardon. Vas-y, John.
Moi, je voulais juste demander, c'est quoi le prochain événement pour la librairie là, dans la semaine?
Ah ben par exemple mercredi il y aura une dédicace d'un jeune mangaka français, car le manga il a évidemment tellement explosé, mais il n'est plus l'apanage de d'auteurs asiatiques, qu'ils soient, comme je le disais tout à l'heure, japonais, coréens, chinois. Tout l'héritage de tout cela auprès de des jeunes qui ont été bercés grâce au manga, eh bien ça fait que maintenant la création elle arrive aussi à maturité, pratiquement en France, à tel point que des créateurs, viennent sur le marché avec des mangas. Et là, nous recevons un jeune auteur français à découvrir qui viendra. Et puis, vendredi et samedi, un auteur étranger, car aussi, on a la chance de pouvoir pratiquement recevoir des auteurs non pas que de France, de Belgique, mais aussi d'un petit peu partout dans le monde.
Et là, ce sera un week-end latino.
Et ça va être un week-end un peu latino, effectivement, avec notamment cet auteur incroyable, Marcello Quintanilla, qui a sorti au mois de septembre, chez Ça et Là, l'éditeur, une BD qui vient d'obtenir le prix du meilleur album de l'année, Fauve d'or. La récompense s'appelle Un Fauve à Angoulême, et qui récompense donc le meilleur album de l'année fin mars à Angoulême, puisque le Salon international de la bande dessinée, qui est d'habitude fin janvier à cause de la Covid, a été reporté à fin mars, et il vient d'obtenir ce prix. Eh bien, nous aurons l'auteur qui vient d'Espagne vendredi et samedi à la librairie.
Alors, juste un petit point pour ceux qui vont écouter l'émission... samedi matin, il faudra vous dépêcher si vous voulez aller à la librairie Bulle, parce que il restera
oui, pardon,
peu de temps.
Évidemment. Mais il reste jusqu'au début d'après-midi.
D'accord. Mais justement, en termes d'auteur, tu as reçu au fil des années des très grands noms de la bande dessinée, des auteurs qui sont en devenir. Aujourd'hui, toi, ton regard sur cette nouvelle génération, il est comment?
Bien, il est un petit peu comme un gamin encore esbaudi par tout cela, qui ne s'en remet pas encore, mais c'est aussi ce qui fait que vous pouvez continuer, en tout cas. Parce qu'encore, libraire, ça veut dire quoi? On n'a pas la vérité, on détient pas la vérité. Ma manière d'avoir ce regard sur la librairie, sur la création, c'est le mien, et que partage peut-être aussi l'ensemble de l'équipe. Mais il y a tellement d'autres manières aussi d'être libraire. Et c'est ça qui fait la richesse de ce métier aussi. Tu ne travailleras pas comme peut travailler un autre, et encore un autre, et etc. Mais moi, en tout cas... c'est de toujours essayer de me dire qu'est-ce qui peut me séduire, qu'est-ce que je peux lire et qui va aussi intéresser, pourquoi pas, telle ou telle personne. Et d'avoir des yeux d'enfant aussi pour rester un peu frais au milieu de tout ça, alors que vous ne lisez plus de la même manière. Je ne lis plus de la même manière que quand j'étais ado, gamin, que je n'avais pas la librairie. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus professionnel parce que il faut faire attention à ne pas louper, à ne pas laisser passer une pépite. Mais voilà, mais en tout cas, c'est de conserver cette fraîcheur.
Et curiosité aussi.
Et cette curiosité, parce que derrière, vous avez un petit poids économique également. Car, eh ben oui, on est capable de vendre beaucoup d'albums, ce qui peut-être rejaillira aussi sur l'auteur.
Eh bien, merci Samuel. On revient juste après un morceau. On aura encore une dernière question pour toi. Mais avant, on attaque un morceau que tu voulais nous partager, John.
Ah bah totalement. Ah mais ça me fait très plaisir en plus.
Eh ben alors on revient juste après.
MPL, le mystère abyssal.
C'est ça.
Tout le monde a déjà entendu des histoires sur les trous d'eau insondables. Chez nous, une rumeur disait qu'à quelques milles de la côte, il y avait une faille très profonde. Un jour, le commandant Cousteau en personne était venu, il avait déclaré « Il est possible qu'elle mène jusqu'au bout du monde. » Nous, on était jeunes à l'époque, on avait peur de rien, il en fallait pas plus pour qu'on s'emballe. On a monté une équipe, on a trouvé un bateau pour résoudre le mystère abyssal. Quand le grand jour est arrivé, tout était prêt, on a largué les amarres. On a navigué jusqu'au trou bleu, guidé par le sonar. On attendait qu'elle remonte, on attend toujours, toujours, toujours. Peut-être qu'elle a trouvé un soleil sous l'eau, bien sûr qu'à cela coule douce. L'un de nous serait désigné au dé pour la plongée. Un double 6 est sorti, on lui a rapporté toutes les pièces du scaphandre et puis elle est partie. Au début, elle nous parlait par radio. La descente semblait belle, mais assez vite, on a perdu sa trace. Et les seuls signes de vie que nous recevions étaient les bulles qui rejoignent la surface. On s'est retrouvés seuls avec nos questions insondables. Combien de temps va-t-elle passer là-bas? Est-ce qu'elle va y rester? Pourquoi les autres ne parlent pas? Pourquoi c'est pas tombé sur moi? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que ça doit venir de moi? On attendait le gong, et les heures étaient de plus en plus longues. On attendait qu'elle remonte, on attend toujours, toujours, toujours. Peut-être qu'elle a trouvé un soleil sous l'eau, bien sûr qu'à cela coule le douce. Bien sûr qu'à cela coule le douce. A coulé sous les pontons et le temps a repris son cours. On a romancé un peu, c'est vrai, mais le souvenir de cette expédition nous poursuivra toujours. On voulait faire un peu de place aux mystères et aux aventures. Qui veut voyager loin ménage ses blessures. On y repense parfois quand il arrive que l'un de nous décroche. Elle se retrouve arrachée loin quand on le croyait proche. De nous disparaît sous la surface pour quelques temps, qu'il perd pied aux confiances. On repense à ces bulles qui venaient troubler le silence. On attendait qu'elle remonte, on attend toujours, toujours, toujours. Peut-être qu'elle a trouvé un soleil sous l'eau, bien sûr qu'elle se la coule douce.
Et voilà, c'était donc MPL avec Le Mystère Abyssal. Pourquoi ce choix, mon John ?
Parce qu'elle est merveilleuse, cette chanson. C'est dommage que là, on ne l'ait pas écoutée, parce qu'on était en train de parler, là, avec Samuel et Geoffrey. On n'a pas écouté les paroles. Vous réécouterez la musique chez vous en rentrant, parce que les paroles sont magnifiques.
Je l'ai déjà écoutée, la chanson, hier.
Ah ouais, t'as vu ?
Quand je l'ai récupérée, je l'ai écoutée en entier.
C'est merveilleux. C'est une très belle histoire.
Donc, il y en avait une dernière question pour toi, Samuel.
Déjà.
Déjà la dernière question.
Damned.
Et t'as vu les stagiaires, hein, ils font le taf quand même.
Ah oui, je vois ça. Ils ont beaucoup travaillé hier. Jour du Seigneur et du vote.
Et tu sais très bien que la religion pour moi est super importante.
Eh ben oui, bien sûr.
Ne blasphème pas. Donc, quel avenir vois-tu pour la librairie?
Oh.
Ah, la question piège.
La question piège.
Je me disais,
je vais prendre la parole très longtemps afin qu'ils ne reviennent pas sur ce genre.
Samuel.
Évidemment. Ah là 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 là, mon Dieu, eh bien.
En plus,
on peut
rajouter quelque chose dans moins d'un an, là, ça sera les 40 ans.
Ben, le but, c'est d'aller déjà au bout de cette 40e année et de faire la fête.
Ouais.
Car 40 ans, 4 décennies de librairie spécialisée dans la bande dessinée, bon, je trouve que c'est déjà une première étape plutôt satisfaisante. Enfin, satisfaisante, il n'y a aucune prétention en disant cela. Ce sera aussi une décennie pour moi de plus. Donc, il y a deux choses. Soit il est temps de partir, de s'éclipser, de laisser la place aux jeunes, ou de continuer quelques années. Je suis un peu dubitatif. Je m'interroge. J'ai l'impression de pas encore avoir tout à fait terminé.
Mais
cette création n'étant pas peut-être encore non plus au bout de quelque chose.
Mais moi non plus, j'ai l'impression que t'as pas terminé.
Rester encore un peu de voir. Et puis il faut bien accompagner tous ces nouveaux arrivants à la librairie.
Ouais.
Ce sont un peu comme mes enfants, n'est-ce pas? Et de veiller sur eux, tel le père, vous savez, hein, le comment dit-on? Non, on dit
amen.
Rien d'ailleurs.
On dit amen, c'est ça, je crois.
Soyez
non,
les
non, c'est une
de...
question pertinente, mais qui pour l'instant reste un peu une interrogation. Mais oui.
Yes, on a une bonne question. Donc, on enchaîne avec un petit jeu.
Ouais.
Alors, comme on reçoit Samuel, le maître de la bande dessinée Mancel.
Oui, enfin ça, vous savez, je suis vieux, moi ma mémoire est flanche de plus en plus, donc
justement,
j'espère
on va le savoir,
ce jeu ne sera pas trop trop compliqué.
Mais moi je le connais pas.
J'ai choisi des BD qui ont plus de 50 ans, ça devrait aller.
Ok, parfait.
Le fourbe.
Je peux sortir de la pièce du coup?
Non, tu connais. Sa première aventure sort en 1929, considéré comme le descendant de Totor, chef scout. Nous suivons notre héros dans ses aventures à travers le monde, en URSS, en Inde, au Tibet, au Pérou. C'est quoi?
Je sais pas, monsieur. Il aurait pas une petite houppette et toujours accompagné d'un espèce de
grand
de,
barbu.
Hein, voilà.
Exact.
Notre Tintin national. De monsieur Hergé, qui est d'ailleurs décédé l'année où nous avons ouvert la librairie, en 83.
Ah, une anecdote que nous n'avions pas. Merci, patron. Deuxième, alors celui-là, je pense que tu vas le trouver aussi, parce que je pense. Apparu pour la première fois en 1956, notre héros, jeune licencié en droit, ouvre son agence de détective privé. Tu rigoles déjà? C'est, je m'arrête là, alors c'est quoi à ton avis?
Ah bah écoutez, là c'est parce que vous connaissez ma passion pour ce héros qui a façonné ma façon d'être, de vivre. C'est Gilles Jourdan de monsieur Tillieu, évidemment.
Justement, t'as dit beaucoup de fois que c'était ta bande dessinée, une de tes bandes dessinées
oui,
préférées.
Oui, parce que j'incite et je recommande à tout le monde de se replonger dans ce héros un peu atypique. Il est jeune, il sort d'une licence en droit. Il est toujours bien fringué, il est plutôt intelligent, il a le flegme déjà britannique, et il saura s'entourer de plusieurs personnages qui sont totalement différents de lui. L'ennemi public numéro un, ex-cambrioleur, est recherché par toutes les polices, Libellule, et puis un inspecteur un peu surprenant, l'inspecteur Crouton, et puis la secrétaire qui, au fil des aventures, jouera un rôle très important.
Que
cerise.
Ouais,
voilà.
Exact.
Et puis surtout des enquêtes bien ficelées, bien racontées, un décor remarquable. Vous pouvez lire à travers les enquêtes de Gilles Jourdan, eh bien, toute l'architecture des années 50, 60, tout le mobilier, toute la mentalité, tellement de choses aussi qui sont, à mes yeux, eh bien, une remarquable œuvre.
Tu te replonges parfois, bah, attends, j'avais juste une question.
Vas-y.
Tu te replonges des fois parfois là-dedans, dans
mais
la
pas suffisamment, c'est ça aussi la problématique de ce métier, c'est de toujours, avec ce rouleau compresseur que sont les nouveautés, de lire les nouveautés et de ne pas avoir assez de temps pour relire les classiques, les Madeleines de Proust aussi. C'est comme en littérature, c'est comme dans tellement d'autres domaines qu'il faudrait pouvoir s'arrêter à un moment ou à un autre et de revenir un petit peu sur ses aînés, sur ces choses qui ont fait l'histoire de la bande dessinée. Et ça n'est pas vieux con de dire que c'est nostalgique peut-être, mais ce sont des grandes œuvres.
Non, je suis totalement d'accord. Bon, vas-y, Geoffrey, on lui laisse la parole, pardon.
Non, mais ça m'allait très bien. Moi, j'adore Gilles Jourdan aussi. Alors, justement, là, ça va être la BD, enfin, la série que moi, j'ai vraiment adoré. Donc, on dit bonsoir à Delphine qui vient d'arriver dans le studio et qui nous rejoint.
Bonsoir Delphine.
Bonjour Samuel.
Alors là, Delphine, elle va être contente parce que là, c'est un jeu. Je suis sûr qu'elle va trouver toutes les réponses.
Oula, j'ai peur.
Et celui-là, il est un peu plus dur. Donc, vous m'en direz, enfin, on verra. En 1949, trois soldats américains, anticonformistes et déserteurs, parcourent l'Asie, de Bornéo à la Corée, en passant par Hong Kong et Macao. Ils sont témoins désabusés de l'histoire en marche, confrontés à des problèmes plus personnels, tels que la recherche d'Alix, l'amour de Mac.
Bugnani?
Non.
Trois personnages?
Alors, Mac, je m'en souviens, les deux autres noms des personnages, malheureusement, je m'en souviens pas, pourtant, c'est une série que j'adore. C'est une série de Yann et Conrad.
Ah oui, avec le comment dire, Damned, ça y est, leur nom m'échappe, mais je vois le dessin d'ailleurs de celui qui a repris Astérix.
C'est ça.
Conrad, et c'est ça n'est pas possible. Allez-y.
C'est Les Innommables.
Les Innommables, évidemment. Oui.
Une de tes séries préférées, ça.
Ah, c'est une des séries que j'ai vraiment adorées.
Tout à fait. Je devrais le savoir, car je savais vos goûts pour cette série, Monsieur Geoffrey.
Ça, c'est marrant, ça me dit rien. Ça, j'ai l'impression que tu l'as inventé.
Je repars dans un truc un peu plus classique. Créée en 1938, la série devient un classique de la bande dessinée à partir de 1946, lorsque notre héros commence à vivre des aventures plus longues. Reporter à la tenue vestimentaire inappropriée, accompagné de son animal de compagnie et de son meilleur ami inventeur fantasque, ses aventures l'emmènent à travers le monde pour affronter des gangsters, des dictateurs, des mégalomanes et autres savants fous. Sa vie n'est pas de tout repos, même quand il s'octroie quelques jours de congé à la campagne chez son ami le comte, le repos ne dure jamais bien longtemps.
À ce petit groom qui aurait pu officier dans n'importe quel grand palace du monde, notre cher Spirou.
Et celui-là, je l'ai écrit tout seul comme un grand.
C'est une très belle plume.
C'est un beau texte, belle plume, Monsieur Geoffrey.
Oui, et oui, ouais, voilà, c'était Galéjade. Fin, on arrête là, j'ai gagné, je suis le meilleur.
Nous n'en doutions point, n'est-ce pas?
Ça va, Delphine?
Ça va, oui. Il faut trouver des BD, donc des films aujourd'hui.
Là, aujourd'hui, c'est que BD.
On t'écoute pour la suite.
Suivant, la série raconte les aventures d'un capitaine, ancien pilote de la Royal Air Force, devenu directeur du MI5, le service secret britannique de contre-espionnage, et de son ami professeur spécialiste en physique nucléaire.
Eh oui. Ben écoutez, nous en avons fait un petit peu notre marque, notre code couleur, Blake et Mortimer, et notamment de cette fameuse histoire de la marque jaune qui m'a fait tellement aussi presque peur, presque rêver, voyager si j'avais pu, car Blake et Mortimer a aussi été à l'origine de beaucoup de métiers d'architecte, de découvreur de terre, enfin voilà, oui, un grand moment aussi.
Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit, bon, moi, je transforme mon B de bulle en B de la marque jaune.
Oui, c'est aussi en hommage à Jacobs, quand nous poussons les portes pour la première fois de ce nouveau lieu et que je vois un mur en briques assez incroyable, eh bien, évidemment, tout de suite, c'est ce retour de cette couverture de ces deux héros, Blake et Mortimer, devant ce grand mur en briques avec cette marque qui me faisait rêver, et voilà, de la transformer avec le B de bulle. J'étais fier que les ayants droit acceptent la gageure.
Bah, totalement, et puis c'est très beau.
Malheureusement, le temps va arriver bientôt à échéance.
Je vois bien qu'il nous regarde avec des yeux noirs.
Donc, c'est parce que je suis en train de grogner que j'ai coupé le micro aussi. Donc, il m'en reste le temps pour en faire un seul. Alors, né en 1939, nous suivons les aventures de notre héros qui combat le crime dans les rues de la ville la nuit. Devenu justicier vengeur suite aux événements tragiques ayant conduit à la mort de ses parents, il peut être accompagné par ses amis et enfants. Dans ses aventures, il est également assisté de son majordome.
Ne serait-ce point là un petit détour vers la BD anglo-saxonne ?
Eh bien
et notre
vu.
Notre cher vengeur masqué, notre chauve-souris international, à savoir Batman.
Il n'est pas tombé dans le piège, le patron.
En plus, il lit encore du Batman. Hein.
Ah oui, c'est l'un des rares.
Je sais que l'année dernière, t'as lu un Batman. J'ai trouvé ça complètement dingue.
J'adore ce personnage car c'est le seul théoriquement à ne pas avoir, à ne pas posséder de super-héros et ce côté sombre, noir. M'a toujours impressionné.
Et ben justement, on parle super-héros, donc là c'est la fin, je vais enchaîner avec la musique qui vient aussi d'une série d'un super-héros qui passe en ce moment, donc on revient juste après.
عارفك وعالقد كل الناس عارفة اني غشيم عمري في يوم ما احتجت لحد مش طفخيم والله بجد واقف وسط كل اسد ما تربتش اني ابقى لئيم في التنفيذ عندي سعية انا عيننا بيسطى المرية وسط حروبي بضرب بعصي وسط بلادي بكتب لي تريات
حبيبي بابا حضرنا جينا عصابة عشنا ببساطة هتنجح لو في إرادة محتاجتش حتى نزلني بنفسي اللون أرقام بترني بتزن عالتليفون حبوني لما وصلت تلوينهم اللون كورتك تيجي عرضة كورتي تيجي جول
سجود 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 سجود
جد الملوك ملوك ملوك مفيش هروب 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 من الأسود من الأسود
احنا مش احنا ناس بخلي وتمام مش شاغلنا من اللي قال الحقود مالهوش مكان
تنكشني تشوف جنان وتتلم الجيران ربك اداني حكمة في اللسان اقولكم بالكلام يانسوكش دايم السلام اخوك مالهوش امان انا عالباص قول تمام فما تقوليش امان انا دايس وفايس كسبت كل الجوايز حطيت السم الفزاي شربت كل اللي عايز انا عايز زي ما انا عايز امايز عايزك تفهمني وتميز وتشوف الصح ده كويس
شوف 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 كنا فين وبقينا الوقت فين ياللي نسيتوني في يومينكم انا هنساكم سنين كتر خير الظروف اللي تخلينا اشوف ناس حبيت بامانه وناس تانيه ما يتشافوش
لما جيت كل طار غصب عني انا انفجار صعب اشوفك في الفضاء لو جيت اعمل معاك حوار ابعد عني عشان اغبي كهراوي واد من الاجنبي كوكبكو يا اسطى غير كوكبي بتقولي واحده سوق تطار
انا جامد انا جامد انا شيك لو معاك فلوس عربيه بتمشيك معروف يا زميلي ما تصاحبش الالافيت لو بتبقى في الاصول الالافيت نشتريك تبقى فوق ولو يشيب الشعر لون مكملين لاخر يوم اصل النجاح ده صعب مش محتاج للنوم
Et donc vous êtes toujours sur Galéjade avec Geoffrey John et puis Delphine de Vertige qui nous a rejoint et toujours notre invité Samuel Chevaux qui est dans ses habitudes bah voilà encore plongé dans une bande dessinée. Donc déjà pour terminer cette émission parce que là il nous reste très peu de temps donc un grand merci
à toi Samuel.
À Samuel.
Merci à vous, vous plaisantez.
Bah non, mais attends, toi tu plaisantes, c'était vraiment...
Toi qui raccroche. Non, c'est toi qui raccroche d'abord, ok. C'est...
Non, c'est un grand merci d'être venu avec nous ce soir. Et puis aussi...
On fera la fête pour les 40 ans.
Oui, on fera la fête. Et d'ailleurs, une fête qui va durer...
Un an.
Exactement, un an. Pendant un an, on fera la fête
attends,
à la
attends,
librairie
attends,
Bulle.
Attends, pour les 40 ans de Radio Alpa ou pour les 40 ans de la librairie Bulle?
Ah mais Radio Alpa, si on peut s'associer, d'ailleurs, combien d'années Radio Alpa existe-t-il?
On fête les 40 ans cette année.
Ah mais c'est vraiment 40 ans?
C'est vraiment 40 ans.
Ah oui, Damned, mais nous sommes nés ensemble alors.
Ah,
mais oui.
Eh, hey Samuel, je ne suis pas qu'un physique derrière la platine.
Eh non.
Donc voilà, là, il nous... bah, pour terminer tout ça, on va passer au... j'ai même pas demandé à Geoffrey pourquoi il avait choisi ce titre. Pourquoi t'as choisi cette musique, Geoffrey? Est-ce que t'as nous en parler?
Justement, 30 secondes, je reviens donc sur le comics qu'on parlait, Batman, en ce moment, sur... sur une plateforme de streaming passe une série qui s'appelle Moon Knight, adaptée également d'un comics.
Exactement.
Et une partie de l'action va se dérouler en Égypte, donc le réalisateur égyptien a voulu mettre de la musique égyptienne. Et quand j'ai entendu le générique, j'ai fait « Waouh, c'est très bien ça, donc on va le partager aux gens. »
Et la série est excellente.
Et la série, elle est ouf.
Bon, il n'y a que deux épisodes pour l'instant, mais ça commence très 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 bien.
C'est pour ça, je ne voulais pas faire la recommandation culturelle sur cette série aujourd'hui, mais je me dis dans 15 jours ou...
Oui, en plus il y aura plus d'épisodes.
Voilà.
Et donc, exactement. C'est quoi ta recommandation culturelle aujourd'hui?
Alors moi, c'est le spectacle d'Alban Ivanov. Alban Ivanov, c'est un humoriste que... Alors, peut-être le nom parle pas à tout le monde, mais je suis sûr que beaucoup l'ont vu dans des films comme Le Sens de la Fête, où est-ce qu'il joue un serveur remplaçant un peu bébête, dans Le Grand Bain, où est-ce qu'il joue un des mecs de l'équipe de natation synchronisée, ou encore dans Inséparable avec Ahmed Silla. J'ai été voir son spectacle à Alençon, et je l'avais déjà vu au Mans, et puis j'avais vu le premier. Enfin, il a un humour... grinçant, noir, il est tellement drôle, il est absurde. Il est le premier à dire qu'il a pas sa place dans le monde du cinéma et qu'il comprend pas pourquoi ça fonctionne encore pour lui aujourd'hui. Donc, honnêtement, sincèrement, si vous savez pas quoi faire, allez sur Amazon, vous pouvez regarder son premier spectacle. Moi, je le trouve vraiment à hurler de rire. Je rigolais tellement que j'avais mal au dos. Je savais plus comment me mettre sur la chaise.
Je m'attendais à pire, donc c'est cool. Si t'as que mal au dos, c'est bien.
Et toi, John, c'est quoi ta recommandation?
Bah là, je me dis, pour terminer l'émission de ce soir, en fait, je laisserai bien ma place à mon cher et tendre Samuel Chevaux pour sa recommandation culturelle. Quelle est ta recommandation culturelle, Samuel,
écoutez,
ce soir?
Chose très originale, une bande dessinée.
Ah.
Et vraiment, je vous
on s'y attendait
parce que
pas.
Vous savez, j'avais juste envie de vous dire que quand on se dit un grand libraire, peut-être 40 ans bientôt de métier, et que vous êtes aussi le roi des ânes et que vous passez à côté de certains titres, eh bien, vaut-il mieux s'en apercevoir malgré tout un petit peu, je vais pas dire trop tard, mais en tout cas, un album qui est sorti au mois de septembre et qui nous a échappé et qui s'intitule Écoute Jolie Marcia. C'est celui dont je vous parlais, dont nous allons recevoir l'auteur à la fin de semaine, car il fallait rattraper cette bévue. Nous ne l'avions pas beaucoup lu à la librairie, très peu de gens de l'équipe l'avaient lu, et nous sommes passés à côté, pour moi, d'un des meilleurs albums. Heureusement, eh bien, les critiques l'avaient mis en avant avec ce fameux Fauve d'or, mais écoutez, album qui se passe de nos jours au Brésil, dans une favela, et c'est la vie de cette femme, Marcia, qui est obligée de s'occuper de tellement de choses. D'abord, famille recomposée, elle s'occupe de sa fille, qui est pourtant grande, mais qui est vraiment une peste, et le terme peste est très faible. Son nouveau compagnon travaille certes dur sur un chantier, mais le soir, il est plutôt assis dans le canapé avec sa bière, et elle continue dans la journée, elle travaille dans un hôpital, et hôpital dans cette grande ville du Brésil, je peux vous dire que la vie, c'est invraisemblable. Elle rentre le soir, et là, il se passe tellement de choses, et évidemment, tout va déraper avec sa fille. C'est aussi une vie de femme, et de voir que ces femmes, elles tiennent un petit peu cette société au Brésil, et certainement dans tellement d'autres pays encore. Moi, ça m'a vraiment beaucoup ému, mais c'est pas uniquement non plus une BD de tout en nuance, une BD où il se passe beaucoup de choses, parce que nous pénétrons dans ces quartiers complètement invraisemblables, où la drogue, où les cartels, où évidemment une vie tellement dramatique se déroule. Mais en tout cas, moi, c'est un album qui m'a laissé sur le derrière. Et recevoir l'auteur pour en parler ce week-end, ça va être un grand moment.
Eh bien, on a hâte de lire ça, et puis hâte de venir justement à l'Espace Bis pour la rencontre qui se déroulera donc vendredi. On sera le combien vendredi?
Damien, il ne fallait pas le dire, c'est samedi.
Samedi,
surtout.
Samedi.
Non, voilà. Non, on peut le dire, il y a quand même des gens qui nous écoutent en direct.
Ah mais oui, où avais-je la tête?
Et il y a le podcast qui peut être écouté aussi dans la semaine. Non, on peut le dire, mais c'est juste que si ceux qui vont écouter samedi matin, malheureusement, la conférence est passée.
Mais ils pourront encore rencontrer l'auteur jusqu'au début d'après-midi.
Voilà. Et puis de toute façon, c'est tout un week-end latino, hein, d'Amérique
du
Sud. Exactement,
car il y aura un second auteur argentin.
Totalement.
Vous, monsieur Jonathan.
Hein. Ouais, bon, bah, ça sera... On va boire du maté, puis on mangera
des empanadas.
Et on
va manger des pépitos.
Des empanadas, plutôt.
D'accord. Autant pour moi. voilà, c'était donc Galéjade. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur galéjade-du-bas-émission. ou sur notre page Facebook galéjade.émission. Si vous êtes en direct, on vous laisse avec Vertige et Delphine qui reprend l'antenne juste derrière nous. Si vous écoutez donc samedi matin, juste après, c'est Jacques et l'émission d'accordéon dont j'ai toujours pas mémorisé le nom. Et si, ouais. Et si vous écoutez le podcast, et ben après, faites ce que vous voulez.
L'accordéon ne t'intéresse pas, monsieur Geoffrey?
Pas assez, malheureusement. Ou peut-être que le samedi matin, je suis pas dispo. Voilà.
Allez, on vous souhaite une très très bonne soirée et une très belle journée.
Merci.